VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du jeudi 17 mai 2018. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Référendum constitutionnel aujourd'hui au Burundi.
Cri de détresse des évêques du Cameroun face à la détérioration de la situation sécuritaire dans les régions anglophones.
Au Sénégal, nouveau heurt hier entre étudiants et forces de l'ordre dans plusieurs universités du pays.
Explosion de bombes tôt ce matin à Gaza.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Au Burundi, plus de 4 500 000 électeurs se rendent aux urnes aujourd'hui dans le cadre d'un référendum pour remplacer la constitution issue des accords de paix et de réconciliation d'Arusha signé en 2000 par tous les ex-belligérants. L'opposition juge le référendum inopportun, tandis que les partis proches du gouvernement indiquent que le moment est arrivé pour les Burundais de choisir leur propre constitution comme ils l'avaient souhaité. De Bujumbura, correspondance de Christophe Nkurunziza.
Le jour J est arrivé, des millions de Burundais se dirigent vers les milliers de centres de vote éparpillés dans les 129 communes du pays. Le vote se déroule sans observateurs internationaux. Des milliers de policiers et de militaires ont été déployés pour la protection des électeurs et des centres de vote. Beaucoup d'observateurs nationaux et étrangers affirment que le oui pour le changement de la constitution va triompher. Le président de la Commission nationale électorale, Pierre Claver Ndayicariye, a dernièrement indiqué que la participation de la population lors de l'enrôlement des électeurs a été enthousiaste, volontaire et massive grâce à la mobilisation effectuée par les hautes autorités de la République. Plus de 4 500 000 électeurs ont été recensés. Ndayicariye demande à la population de garder les attestations d'inscription qui seront demandées pour les autres scrutins qui vont être étalés jusqu'aux dernières élections des conseillers des collines et des quartiers de 2020. Rappelons aussi que l'activiste des droits humains Pierre Claver Mbonimpa estime que la réforme constitutionnelle enterre les accords d'Arusha, un médicament que les Burundais avaient trouvé avec feu Nelson Mandela pour préserver le Burundi de la maladie de la guerre ethnique. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
La mission de l'ONU en République démocratique du Congo a annoncé hier avoir retrouvé sains et saufs deux casques bleus de la MONUSCO portés disparus vendredi après l'attaque de leur convoi. Ce convoi de 13 casques bleus avait été attaqué par des Maïmaï dans la province de Tanganyika, dans le sud-est de la RDC. Les deux soldats qui avaient manqué à l'appel appartiennent au contingent béninois. Les Maïmaï sont des milices d'autodéfense composées sur une base ethnique.
Les évêques du Cameroun ont lancé hier un cri de détresse face à la détérioration de la situation sécuritaire dans les régions anglophones. Les prélats ont notamment souligné la nécessité d'une médiation pour éviter une guerre civile inutile. Les précisions de Jean-Roger Bion.
À tous les Camerounais, nous lançons un cri de détresse au nom de Dieu le Tout-Puissant, écrit les évêques dans une déclaration. Nous, évêques du Cameroun, estimons qu'une médiation s'impose maintenant pour une sortie de crise dans les régions anglophones du sud-ouest et du nord-ouest, ont-ils ajouté. Les dignitaires catholiques ont aussi plaidé. Épargnons notre pays, le Cameroun, d'une guerre civile inutile et sans fondement. Cessons toute forme de violence et arrêtons de nous entretuer, ont-ils ajouté, appelant les partis à prendre le chemin du dialogue, de la réconciliation, de la justice et de la paix. Les évêques rappellent que depuis 2016, les régions du nord-ouest et du sud-ouest vivent des situations difficiles, marquées par des violences inhumaines, aveugles, monstrueuses et une radicalisation des positions qui nous inquiète. Dans le nord-ouest et le sud-ouest, les combats sont devenus quasi quotidiens entre les forces de sécurité camerounaises déployées en force et des hommes armés se réclamant des forces de restauration d'un État anglophone qui avait éphémèrement vu le jour entre les deux guerres mondiales sous mandat britannique.
Au Sénégal, de nouveaux heurts entre étudiants et forces de l'ordre ont éclaté hier dans plusieurs universités du pays. La veille, un étudiant, Mohamedou Fallou Sen, 25 ans, avait été tué par balle à l'université Gaston Berger de Saint-Louis dans le Nord lors d'une confrontation avec les gendarmes. Mardi soir, le président sénégalais, Macky Sall, a fait part de sa profonde émotion et a indiqué avoir instruit le gouvernement de faire toute la lumière et de situer les responsabilités. La mort d'un étudiant dans de telles circonstances, plutôt rares au Sénégal, a suscité une vague d'émotion dans le pays.
En Mauritanie, une femme va pour la première fois présider un tribunal après la désignation par le Conseil suprême de la magistrature de Tekber Mint Oudeika à la tête du tribunal du travail de Nouakchott. Madame Mint Oudeika, nommée juge en 2015, était depuis lors conseillère au tribunal de commerce de la capitale mauritanienne. Elle était devenue la seconde femme à devenir juge après la prestation de serment en 2013 de sa collègue Oumama Mincher Sidia dans ce pays musulman d'Afrique de l'Ouest où s'applique la charia, la loi islamique et où les femmes n'ont jamais joué de rôle prépondérant dans le domaine de la justice.
Dans le nord du Nigeria, des dizaines de personnes ont été enlevées ces quatre derniers jours sur une route dans l'état de Kaduna. Selon des habitants, des bandes armées sévissent dans cette région. Le point avec Irénée Herman Ungbo.
Un très grand nombre de personnes ont été enlevées le week-end dernier. Les assaillants ont élevé des barricades sur la route au niveau de la localité de Birnegwari qui mène vers Kaduna. Ils forçaient les voitures à s'arrêter et ont conduit leurs victimes dans la forêt. Selon un témoin, difficile de dire avec précision combien ont été enlevés, mais plus de 10 véhicules dont des bus ont été vidés et abandonnés le long de la route. Le porte-parole de l'émir de Birnegwari, Issam Hamad Galadima, estime quant à lui à plus de 100 le nombre de personnes enlevées. Les gangs ont profité de l'absence de la police habituellement déployée le long de la route pour commettre leurs actes. Des policiers ont été déployés autour des bureaux de vote pendant les élections locales qui ont eu lieu ce week-end dans la région. Le porte-parole de la police de l'État de Kaduna, Mukta Aliou, affirme n'avoir reçu aucun compte-rendu de ces incidents.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au moins 5 explosions de bombes ont été signalées tôt ce matin à Gaza. On déplore au moins un blessé. Un correspondant de la Voix de l'Amérique sur place a entendu ces explosions et vu des ambulances se précipiter sur les lieux. Selon des sources locales, les cibles seraient toutes des installations du Hamas, le groupe qui contrôle la bande de Gaza. Ces explosions surviennent après les grandes manifestations de cette semaine le long de la frontière avec Israël, au cours desquelles plus de 60 personnes ont été tuées et plus de 2700 autres blessées par les forces israéliennes. Hier, un officiel du Hamas a dit que 50 des morts étaient des membres du groupe et les 12 autres des civils, dont des femmes, des enfants et une fillette de 8 mois.
Nous verrons, c'est en ces termes que le président américain Donald Trump a réagi aux menaces de la Corée du Nord d'annuler le sommet prévu entre lui et le leader nord-coréen Kim Jong-un, et ce à cause des grandes réserves de Pyongyang concernant les demandes des États-Unis sur le démantèlement du programme nucléaire nord-coréen. Rien ne nous a été notifié, nous n'avons rien entendu, nous verrons ce qui se passera, dit M. Trump. Auparavant, sa porte-parole, Sarah Huckabee Sanders, avait souligné que le président américain s'était préparé pour des négociations difficile et que si le sommet du 12 juin était annulé, les États-Unis continueront leur campagne de pression maximale de sanctions économiques contre la Corée du Nord.
Toujours à Washington, la nomination de Gina Haspel, choisie par le président Trump pour diriger la CIA, a été approuvée hier par une commission du Sénat, malgré son rôle controversé dans des programmes de torture. Il s'agit là d'un cap décisif avant un vote final de la Chambre haute du Congrès. Le point avec Mary Benson.
Âgée de 61 ans, Madame Haspel est actuellement directrice adjointe de la CIA, où elle travaille depuis 33 ans dans les opérations clandestines. Elle avait créé la polémique pour avoir dirigé en 2002 une prison secrète de la CIA en Thaïlande, où les suspects étaient souvent torturés. Gina Haspel a été auditionnée pendant plusieurs heures la semaine dernière. Elle avait affirmé que la torture ne marchait pas et a promis de ne plus y recourir si elle était désignée à la tête de la CIA. L'ensemble du Sénat, où les Républicains ont une très courte majorité, doit maintenant se prononcer. Le vote est attendu d'ici la fin du mois. Madame Haspel, si elle est confirmée, sera la première femme à la tête de l'agence de renseignement pour succéder à Mike Pompeo, devenu secrétaire d'État américain.
États-Unis toujours, le président de la commission du renseignement du Sénat, Richard Burr, a déclaré que l'enquête de cette dernière a montré que la Russie s'était ingérée dans la présidentielle de 2016 pour aider le candidat républicain Donald Trump face à la démocrate Hillary Clinton. Il confirme ainsi les conclusions précédentes des services de renseignement américains. Ses homologues républicains de la commission du renseignement de la Chambre des représentants étaient, eux, arrivés à une autre conclusion à ce sujet.
Les États-Unis et la Chine reprennent aujourd'hui leurs délicates négociations commerciales sous la menace de la possible entrée en vigueur, dans moins d'une semaine, de sanctions américaines qui relanceraient le spectre d'une guerre commerciale. Le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, dirigera aujourd'hui et demain des discussions avec une délégation chinoise emmenée par le vice-premier ministre Liu He, a annoncé mercredi la Maison-Blanche. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Eric Manirakiza.
Le Togo prévoit un pôle manufacturier de 2 parcs industriels pour donner vie au secteur industriel. Les parcs devront être constitués chacun de 15 usines intensives tournées vers l'exportation du textile, des chaussures, etc. Ce projet ambitieux devrait attirer des investissements directs étrangers de 1 000 milliards de francs CFA sur la période 2018-2022 et créer 100 000 emplois sur la même période. Ethiopian Airlines envisage de lancer près d'une dizaine de nouvelles branches en Afrique d'ici à la fin de cette année. La compagnie va acheter des parts de certains opérateurs ou prendre en main la gestion d'autres compagnies. La Zambie, le Tchad, le Mozambique, la Gambie, la Guinée équatoriale et la RDC sont ciblées. À partir de ce mois, elle va ouvrir de nouvelles lignes directes vers l'Europe, les États-Unis et l'Indonésie. D'ici à 2025, elle va porter sa flotte à 150 aéronefs. Ethiopian Airlines reste la première compagnie du continent africain. Son bénéfice net est estimé à 233 millions de dollars durant l'exercice 2016-2017. Les cours du pétrole ont terminé hier au plus haut depuis fin 2014. Le baril pour livraison en juillet a terminé à plus de 79 dollars sur le marché de Londres. Un rapport américain qui montre un recul hebdomadaire des stocks de brut et un nouveau record des exportations a soutenu ses résultats. L'Agence internationale de l'énergie a légèrement abaissé sa prévision de croissance de la demande de pétrole en 2018. Elle envisage désormais un ralentissement au deuxième semestre, notamment en raison de la hausse des prix.
À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Voilà, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
L'Atlético Madrid, sans surprise, remporte l'Europa League.
Et oui, la marche était trop haute pour l'Olympique de Marseille qui s'est lourdement incliné en finale de cette Europa League contre l'Atlético Madrid. 3-0. Antoine Griezmann a inscrit un doublé pour les Colchoneros et Gabi est venu anéantir les derniers espoirs olympiens en toute fin de match. Le score final 3-0 donc. À noter que l'une des vedettes de Marseille, Dimitri Payet, était sorti blessé en première mi-temps. On rappelle Idrissa que l'Atlético Madrid a remporté sa 3e Ligue Europa après celle de 2010 et 2012. 6 des 9 éditions de l'Europa League ont été gagnées par des clubs espagnols. Quant à Marseille, c'est la 3e finale perdue en C3. L'OM rejoint Benfica au rang des équipes ayant perdu le plus de finales dans l'histoire de la C3.
Deuxième journée de la phase de poule Coupe CAF.
Match nul spectaculaire entre le Raja Casablanca et Adwana Star du Ghana. 3-0. L'AS Vita Club s'est imposé à domicile. 3-1 contre l'ASEC Mimosa. Le Cara de Brazzaville n'a pas fait de détail contre Enimba. 3-0. L'Udesongo s'est incliné à domicile 2-0 contre Berkane. Match nul entre Gormaya et l'USM Alger, 0-0. Même score entre les Young Africans et le Rayon Sport. Match nul un but partout entre El Hilal du Soudan et Al Masry d'Égypte. Même score à Bamako entre le Djoliba et le WAC de Williamsville. Sans oublier Idrissa, le dernier match en Ligue africaine des champions. 2-1 pour l'Étoile du Sahel devant le Zesco United. Allez Idrissa, avec vous, on parle de NBA, le championnat de basket nord-américain. La finale de la Conférence Ouest se poursuit.
Stephen Curry et Draymond Green, méconnaissables, les Rockets, redoutables d'efficacité à 3 points et survoltés, Houston a asphyxié Golden State 127-105 hier pour relancer la finale de la conférence Ouest des playoffs NBA. Une victoire partout.
Jacques Aristide avec vous, Washington Forum braque les projecteurs ce jeudi sur l'inauguration lundi de l'ambassade américaine à Jérusalem. Au même moment, des affrontements meurtriers ont éclaté dans la bande de Gaza entre l'armée israélienne et des manifestants palestiniens. Quel est l'impact des derniers événements sur le conflit israélo-palestinien? Pourquoi le statut de Jérusalem continue-t-il d'être source de tensions? Faut-il craindre une aggravation de la situation? situation dans la région du Proche-Orient. Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h TV.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le Ramadan débute aujourd'hui pour les musulmans de plusieurs pays du monde. Comment prépare-t-on ce mois saint de l'islam au Nigeria, le pays le plus peuplé d'Afrique et, selon la commission chargée des questions de population, compte parmi ses 198 millions d'habitants environ 80 millions de fidèles musulmans. Reportage de notre correspondant Gilbert Tamba à Abuja, la capitale du Nigeria.
Si le Ramadan est une période de sacrifice, il est aussi un temps de fête et de partage pour les musulmans. Dans le marché de Gwarimpa, situé dans la plus grande cité de la capitale fédérale du Nigeria, Abuja, ils sont nombreux à se précipiter pour des achats de dernière minute avant le grand jour du début du jeûne. C'est le cas de Ali Djibril. Il s'est plaint du prix élevé des denrées alimentaires sur le marché en ce mois de carême.
Je suis là pour faire des achats pour le mois de Ramadan qui débute demain, mais le problème est que nos gens ne nous aident pas, les prix sont élevés dans ce marché. Ils n'augmentent pas les prix à un autre moment et profitent du mois de Ramadan pour hausser les prix.
Chaque soir, la rupture du jeûne est l'occasion de partager des moments de joie avec la famille, les amis et les voisins. Les familles ont économisé depuis des mois ou des semaines pour pouvoir faire des réserves de nourriture pour les 30 jours de jeûne. Abdourahmane Mohamed est vendeur de légumes et a décidé de diminuer les prix.
Non, ce n'est pas cher. Avant, je vendais du riz à 700 naira le kilo, soit 1,79 $. Mais maintenant, je le vends à 550 naira, soit 1,52 $. Et le riz local à 500 naira. Cette île, par exemple, avant le carême, je la vendais à 2500 naira. Mais aujourd'hui, je la vends à 2200, soit 6,93 $. Et ce qui est un peu cher, c'est du haricot. Et ça aussi, c'est à cause du temps.
Les préparatifs ne se font pas seulement dans les marchés, mais aussi dans les lieux de culte islamique. Et pour l'imam Omar Adekoya Deyemi, le jeûne du mois de Ramadan doit être accepté par le musulman comme un acte de bonheur, non pas comme une contrainte. C'est un mois béni offert par Dieu comme une opportunité de récolter beaucoup de récompenses dans tout ce que nous faisons. Il a aussi encouragé les musulmans à aider ceux qui ont besoin de nourriture afin qu'ils trouvent quelque chose à manger au moment de la rupture du jeûne.
Durant ce mois de Ramadan, les frères musulmans doivent se rassembler pour enseigner, lire le Coran et faire beaucoup d'autres choses. Tout notre corps doit être concentré et devons aider nos frères musulmans. Et ce mois est aussi un mois de charité, donner des choses aux gens comme de la nourriture, des habits ou autres choses. Il faut visiter les familles et beaucoup d'autres places et s'occuper de nos voisins.
Au Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique, le sultan de Sokoto est président du Conseil suprême des affaires religieuses a appelé les musulmans à commencer à chercher la lune dès ce mercredi soir, ce qui permettra de donner le coup d'envoi aux jeunes. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Au Sénégal, le mouvement commencé lundi à l'université Gaston Berger de Saint-Louis gagne d'autres universités du pays. Un étudiant en lettres, Mohamedou Fallou Sen, 25 ans, a été tué et 18 policiers ont été blessés dans des affrontements alors que les étudiants demandaient le paiement de leur bourse. John Lyndon a joint Babacar Cissé, coordonnateur des étudiants de Saint-Louis.
Nous sommes dans un état de mobilisation et ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait, ce ne sont pas en réalité des affrontements entre forces de l'ordre et étudiants, mais c'est débuté en fait à l'université Gaston Bève de Saint-Louis ou à la suite d'un décret des IST, c'est-à-dire des journées sans ticket par la coordination des étudiants de Saint-Louis. Le recteur, président de l'Assemblée de l'université, a fait intervenir les forces de l'ordre au niveau du campus social. Et suite aux affrontements, il y a en fait un étudiant du nom de Mohamedou Fallou Sen, étudiant en licence de lettres modernes à l'UFR des lettres et sciences humaines, a été tué par balle, a été abattu sauvagement par les forces de l'ordre. C'est ce qui a provoqué en fait les émeutes au niveau des autres universités du Sénégal.
Pour ce qui est des revendications, le versement des bourses à l'origine des manifestations a été accordé. Pourquoi est-ce que le mouvement ne faiblit pas?
Le mouvement, en fait, ne va pas s'affaiblir. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le paiement des bourses, il y a une instruction ferme qui a été donnée par le président de la République. Cette instruction révèle qu'il faut payer les bourses au plus tard le 5 de chaque mois. Malheureusement, l'État du Sénégal n'a pas respecté, en fait, cette instruction présidentielle. On est arrivé jusqu'au 11 où les bourses ne sont pas payées. C'est par la suite que la coordination des étudiants de service a décrété la journée syndiquée le 14 pour motif retard de paiement, voire la persistance du retard de paiement. C'est par la suite que le recteur, violant les franchises universitaires, notamment la loi 74-96 relative aux franchises et aux libertés universitaires, a fait intervenir les forces de l'ordre au niveau du campus social de l'université Gaston-Roger de Saint-Louis. Maintenant, suite à la mort de notre camarade, le combat ne peut pas s'arrêter.
2019 est une année électorale au Sénégal. Ne craignez-vous pas une récupération de votre indignation?
On est une structure très forte. Nous, on a des principes. Nous, on s'en fout de ces considérations politiques ou bien électorales. Nous, tout ce qui nous intéresse, c'est la quiétude de nos camarades étudiants. Gare aux politiciens qui veulent en fait utiliser le meurtre de Fallou en fait pour asseoir leur base politique. Nous leur disons que vous allez nous trouver ici. Nous n'allons jamais au plus grand jamais accepter que la non-souffrance soit utilisée en fait à des fins politiques ou bien à des fins de gagner des voix.
Babacar Cissé, coordonnateur des étudiants de Saint-Louis.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Au Togo, la cinquième édition du Female Tech Camp s'achève à Lomé. Il s'agit de 4 jours de formation destinés exclusivement aux jeunes filles dans les domaines technologiques. Cette formation a lieu sur le campus universitaire de la capitale et vise à élargir l'horizon de ces filles en lien avec les technologies de l'information et de la communication. Reportage de Kay Lawson, correspondante de VOA Afrique à Lomé.
La communauté des Nanatech au Togo vient d'accueillir 32 nouvelles adhérentes. Cette communauté est composée des alumni du Female Tech Camp qui est à sa 5e édition cette année. Female Tech Camp est une rencontre destinée aux jeunes filles togolaises passionnées par la technologie. Nadeja Futu est la présidente du Female Tech Camp.
Nous avons remarqué que les filles ont une certaine appréhension. Elles avaient construit un mythe autour des TIC. C'est pourquoi déjà en 2013, nous avons nourri l'idée de les aider à démystifier les TIC et de les aider à acquérir des compétences. Depuis 2014, grâce au Tech Camp, on a pu voir l'émergence de community managers, des infographistes, des photographes, des spécialistes de la vidéo.
Akwa Awuja est de la promotion 2015 de Female Tech Camp.
J'ai eu à découvrir les béabas de ce que c'est que les réseaux sociaux surtout. On nous parle du branding, de e-réputation, etc. Ou des termes comme le social media management ou encore le journalisme web ont été évoqués. Et donc depuis lors, j'ai trouvé une aspiration pour le journalisme web. Du coup, je me suis lancée dans cela, mais sur les questions de développement socio-économique et culturel, d'où le site web et la web TV que j'ai aujourd'hui, Africa Quoi TV.
Pendant ces 4 jours, les participantes apprennent entre autres les métiers du web, le codage et le microblogging. Une formation fort appréciée, en croire ses participantes rencontrées par VOA Afrique.
Moi, j'ai voulu participer à ce camp parce que depuis toujours, tout ce qui est technologie m'intéresse. Nous avons pu parler de journalisme et aussi de blogging. Donc moi, personnellement, j'ai appris comment créer un blog et comment le gérer aussi.
J'ose dire que les nouvelles informations que j'ai reçues sont vraiment intéressantes. On a essayé de créer déjà notre blog, donc on nous a conseillé de savoir bien écrire. Concernant le codage, c'est un peu compliqué, c'est vrai, mais c'est une nouvelle information qui vient à moi aujourd'hui. C'est un peu difficile, mais bon, on essaie d'apprendre du mieux.
Pour soutenir la gente féminine dans les domaines technologiques, le gouvernement togolais ne leur dédie pas exclusivement des initiatives, explique à VOA Afrique la ministre togolaise de l'économie numérique, Sina Lawson.
Il ne s'agit pas de n'avoir que des initiatives spécifiques aux femmes. Il y a des initiatives comme celle du compte éco qui va contribuer énormément à l'inclusion numérique des femmes. Au niveau de l'éducation, il y a le projet du Wi-Fi Campus, parce qu'en fait, accompagner, c'est donner des outils, c'est donner des moyens, notamment en matière de technologie qui concerne la connectivité. Il y a aussi des initiatives dans le domaine de l'agriculture, par exemple le projet Agri-PME, PME comme porte-monnaie électronique, qui était destiné aux agriculteurs vulnérables, mais qui ont beaucoup bénéficié aux femmes. femmes parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait plus de femmes agriculteurs que d'hommes.
En plus des modules technologiques, les participantes à cette 5e édition du FIMETECH Camp, soutenue par l'ambassade des États-Unis au Togo et d'autres partenaires privés, sont édifiées sur l'entrepreneuriat, le coaching sur le développement personnel et aussi sur des questions de santé, notamment le cancer du sein. Kailosson, Lomé pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
La Corée du Nord signale que la rencontre historique entre les présidents Donald Trump, entre le président Donald Trump et le leader nord-coréen Kim Jong-un pourrait être annulée si Washington cherchait à l'acculer à renoncer unilatéralement à son arsenal nucléaire. La Chine, proche alliée du régime nord-coréen, a appelé à la tenue de ce sommet prévu le 12 juin à Singapour. Est-ce que Pyongyang peut mettre à exécution sa menace? Idriss Fall a joint à Paris Françoise Nicolas, directrice du Centre Avis de l'Institut français des relations internationales.
Oui, il y a un vrai risque parce que Kim Jong-un se sent en position de force. Il sait que Donald Trump a vraiment tout intérêt à ce que le sommet ait lieu. Et donc, c'est une sorte de marchandage, de chantage qu'il exerce vis-à-vis de Donald Trump.
Chantage, marchandage autour de quoi?
Autour des conditions que les États-Unis vont devoir concéder, accepter de faire à l'égard de la Corée du Nord. La Corée du Nord étant en position de force, elle va essayer d'extraire des concessions de la part des États-Unis. Et notamment, ces concessions, elles portent sur la dénucléarisation. Qu'est-ce qu'on entend par dénucléarisation? C'est ça toute la question. Et pour Kim Jong-un, il ne s'agit pas d'une dénucléarisation unilatérale, c'est-à-dire qu'il ne veut pas, lui, se séparer de son arme nucléaire s'il n'y a pas quelque chose en contrepartie, s'il ne tient pas des garanties de sécurité.
Qu'est-ce qu'il peut obtenir comme garantie?
Il faudrait des garanties de sécurité, c'est-à-dire vraiment être sûr qu'il n'y aurait plus de menaces qui pèseraient sur la Corée du Nord. Et pour ce faire, il faudrait éventuellement que les troupes américaines se retirent de la péninsule coréenne. Il faudrait que les troupes américaines quitte la Corée du Sud. Or, ça n'est pas exactement ce que les États-Unis, a priori, avaient en tête. Pour eux, la dénucléarisation, elle portait essentiellement sur la suppression des armes nucléaires au Nord. C'est tout. Et aux yeux de la Corée du Nord, ça n'est pas comme ça qu'ils l'entendent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'éventuellement, s'il y a dénucléarisation, ça veut dire aussi retrait des troupes américaines, du bouclier, en quelque sorte, nucléaire américain, de l'ensemble de la péninsule. On a vraiment là un désaccord sur la définition même de la dénucléarisation, qu'est-ce qu'on entend et qu'est-ce qu'on veut faire avec ce terme-là. Et on pouvait se douter qu'il y avait un écart dans les définitions. Et là, il est très clair qu'il y a effectivement bel et bien un écart dans les définitions.
Et la Chine, Pékin dans tout ça, parce que Pékin a joué un grand rôle dans cette sorte de rapprochement, non?
Pékin a joué un rôle dans un deuxième temps. Dans un premier temps, Pékin a été un petit peu laissé de côté. Et Kim Jong-un a ensuite été sollicité à un entretien auprès de Xi Jinping, précisément pour rééquilibrer les choses et pour réintroduire la Chine dans le jeu. Là, on va voir quelle est la posture de la Chine en la matière. On ne sait pas exactement. Et pour l'instant, moi je vois ça, je perçois ça vraiment un petit peu comme une sorte de chantage de la part de la Corée du Nord, qui est pertinemment convaincue que Donald Trump a tout intérêt à ce que le sommet ait lieu. Si ce sommet n'a pas lieu, c'est un échec pour Donald Trump. Alors que là, jusqu'à présent, il fanfaronnait en disant que voilà, lui, il avait été le seul à amener la Corée du Nord à la table des négociations à nouveau, à engager un dialogue, ce que ses prédécesseurs n'avaient pas réussi à obtenir. Donc là, il était vraiment dans une posture de vainqueur. Et si le sommet n'a pas lieu, c'est un camouflet assez spectaculaire pour Donald Trump. Kim Jong-un le sait et il en joue.
Françoise Nicolas, directeur du Centre Avis de l'Institut français des relations internationales. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Jonas Cummings. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seydoudi à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.
Jacques Aristide avec vous, Washington Forum braque les projecteurs ce jeudi sur l'inauguration lundi de l'ambassade américaine à Jérusalem. Au même moment, des affrontements meurtriers ont éclaté dans la bande de Gaza entre l'armée israélienne et des manifestants palestiniens. Quel est l'impact des derniers événements sur le conflit israélo-palestinien? Pourquoi le statut de Jérusalem continue-t-il d'être source de tensions? Faut-il craindre une aggravation de la situation dans la région du Proche-Orient? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h TV.